Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Ce sont des questions qui ressortent à chaque affaire judiciaire médiatisée en raison de l'horreur du crime, du nombre de victimes ou de leur personnalité. Terrorisme, infanticide, féminicide, les avocats de la défense, qu'ils soient des vedettes du barreau ou moins connus, sont confrontés à des difficultés et à des questions qui leur sont souvent opposées. Comment peut-on défendre les auteurs de tels crimes? Comment peut-on accepter d'être payé pour le faire ou même de le faire gratuitement? La défense a parfois du mal à exprimer ses arguments. Face à une société solidaire de la souffrance des victimes, face à la douleur, la parole de la défense est-elle encore audible? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Marie Dauzé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate au barreau de Paris, co-auteur de La Cour d'assises quand un avocat et un jury délibèrent. C'est aux éditions Dalloz. Et Ondine Milot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante après avoir tenu pendant 16 ans la chronique judiciaire du quotidien Libération, auteur d'un livre qui sortira le 7 mars aux éditions Stock, Les monstres n'existent pas. Les monstres n'existent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie quoi?
C'est l'histoire d'une femme, l'histoire vraie d'une femme qui a tué ses 8 bébés à la naissance et qui, bien sûr, médiatiquement a été présentée comme un monstre. Et moi, j'essaye de refaire son parcours, sa vie, comment elle s'est construite, les violences qu'elle a subies, pour expliquer que non, ça n'est pas un monstre, mais une personne qui a reçu énormément de violences et qui l'a retransmise ensuite.
Alors, ça sera sans doute, on va en reparler pendant ce débat. Les questions que j'évoquais en introduction, elles ne sont pas nouvelles, elles sont aussi anciennes que le procès pénal contradictoire, c'est-à-dire un procès où l'accusation et la défense s'emparent d'un dossier et confrontent leurs arguments pour aboutir à un jugement ou un verdict. Des avocats très célèbres y ont été confrontés. On peut évoquer Jacques Vergès, qui a défendu le nazi Klaus Barbie, ou Robert Badinter, qui a défendu des tueurs d'enfants. Mais plusieurs affaires récentes les ont fait réapparaître sous un jour nouveau. Le procès pour complicité de terrorisme d'Abdelkader Merah, frère du terroriste de Toulouse et de Montauban en 2012. Le meurtre d'Alexia Daval avoué par son mari. À chaque fois, la parole des avocats a été très discutée et critiquée. Est-ce que c'est de plus en plus difficile d'être avocat au pénal, Marie Dauzé?
Je ne sais pas, je pense qu'il faut pas s'exposer. En tout cas, il faut s'exposer moins, notamment s'agissant d'une affaire judiciaire. On peut rappeler les grands principes, qui est que toute personne doit être défendue. C'est pas qu'elle a droit à être défendue, c'est qu'elle doit être défendue. Que notre place est une belle place. Mais s'agissant d'une affaire judiciaire en cours ou de réaction entre deux journées d'assises, je ne sais pas si l'exposition outrancière sert toujours la défense. Je pense peut-être qu'on est dans une société où on communique trop et que ce tropisme conduit la même société qui tend les micros à finalement décrier facilement ce qui a été dit par la défense. Donc c'est compliqué. Je crois qu'il faut qu'on soit plus discret.
Oui, c'est le travail des journalistes ne facilite pas celui des avocats, Ondine Milot.
Alors, c'est sûr que quand on regarde comment a évolué le journalisme judiciaire sur les 10 ou 15 dernières années, déjà vous n'avez pas le même nombre de journalistes judiciaires qu'avant. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus.
Comme dans tous les domaines, il y a une multiplication des médias en fait.
Voilà. Mais je pense, peut-être je me trompe parce que j'ai pas non plus fait d'études statistiques là-dessus, mais je pense que le judiciaire, et notamment avec toutes les affaires de terrorisme et avec la judiciarisation d'un certain nombre de choses dans la société, a pris quand même plus de place, puisque je pourrais vous dire aussi que les services se sont vraiment étoffés proportionnellement à d'autres services dans les rédactions. Donc évidemment, vous avez des journalistes très nombreux qui sont en demande, qui sont parfois sous pression de leur rédaction en chef, etc., sous pression d'horaires, de directs, de journaux à remplir. Et effectivement, ils sont très demandeurs. Moi, j'ai eu la chance d'être dans une...
Il faut nourrir la bête, quoi.
Moi, j'ai eu beaucoup de chance de travailler dans une presse écrite où on me mettait pas la pression pour le scoop, le bon mot, etc. On me demandait plutôt d'apporter du sens et j'avais toujours du temps pour travailler posément. Je faisais pas de live tweet, je voulais pas en faire, ils étaient pas très contents de ma rédaction, mais ils acceptaient. Enfin voilà, je refusais cette chose de l'immédiateté. J'avais encore ce luxe, je sais pas si j'aurais pu tenir très longtemps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'évidemment, il y a une pression très forte des médias sur les avocats.
Alors, est-ce qu'il y a des arguments qu'on hésite à employer parce qu'ils ne sont plus recevables, parce que la société a évolué ou pour d'autres raisons, Marie Dauzé?
Non, je crois pas. Je crois que l'avocat de la défense doit rester celui qui n'est pas audible. Je pense très franchement que c'est sa seule richesse et c'est finalement sa seule raison d'être. L'avocat des défenses, il est là pour dire ce que personne ne veut entendre. Et puis un jour ou l'autre, eh bien, on s'en souviendra de cette petite phrase et puis elle aura du sens dans chacune de nos vies. Mais non, je crois que si l'avocat de la défense, celui qui va défendre l'accusé, se contente finalement de caresser regarder l'opinion publique dans le sens du poil, il a perdu la bataille. Maintenant, il faut toujours avoir en tête que nous sommes là non pas pour donner des leçons, mais pour servir les intérêts de celui qui est accusé, de celui qu'on défend. C'est tout. Pour rebondir sur ce que disait Madame Milot, moi, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est avec les tweets. C'est quand même très très compliqué. C'est-à-dire que moi, alors, elle nous expliquait qu'elle n'a pas connu, elle, qu'elle est partie de la chronique judiciaire juste avant l'arrivée du tweet, mais ou qu'elle le refusait, oui, plus exactement, refusais. Si j'ai bien compris, oui. Mais moi, il y a des moments où je ne sais plus très bien pour qui je plaide, devant ou derrière. C'est-à-dire que la résonance, en tout cas, est très très forte derrière avec ces histoires de tweets, et a de toute façon une importance ou un impact sur les jurés, notamment devant une cour d'assises. Donc tout ça devient compliqué et il va falloir faire confiance aux magistrats, ce qui n'est pas toujours d'ailleurs très facile.
Oui, Ondine Milot, vous avez quitté Libération en partie pour ça?
Non, je n'ai pas quitté Libération parce que j'avais peur qu'on m'oblige un jour à live tweeter. Pour l'instant, j'arrivais à tenir bon et ça se passait bien. Simplement, c'est vrai que mon choix d'évolution professionnelle, effectivement, va plus vers des livres et moins vers l'immédiateté, parce que je trouve que c'est une forme plus enrichissante de traiter ce domaine qui me passionne, qui est celui de la justice.
Alors, on va approfondir un peu ce sujet. On va prendre un exemple d'un procès. Alors, je sais que c'est une affaire qui n'est pas encore jugée. C'est l'exemple du procès de Jawad Ben Daoud, qui a été suivi en direct sur Twitter. C'est ce qu'on appelle le live tweet. Il n'y a plus le tempo qu'il y avait auparavant. Pour la justice auparavant, les journalistes, ils étaient à l'audience, et puis une fois que c'était terminé, ils sortaient, ils écrivaient leurs papiers, ils faisaient leur direct à la télévision ou à la radio. Là, l'intimité des débats, Marie Dosé, elle n'existe plus. C'est en direct. C'est quelque chose qui change fondamentalement une cour d'assises ou un tribunal correctionnel.
Oui, la justice est rendue au nom du peuple français. Les audiences sont publiques, mais là, c'est toute l'information, chaque instant, qui finalement entre par effraction dans une salle d'audience et qui est retweetée et donnée à lire à tout le monde. Ça change complètement la donne. J'entendais ce que disait Ondine Milot tout à l'heure. Il est évident que lorsque, au cours d'un procès, on a des articles de fond, comme elle a pu en écrire, ou comme d'autres chroniqueurs judiciaires ont pu écrire, des articles de fond sur lesquels on explique la position du parquet, de la victime, ce qui s'est passé, avec ce temps et ce recul nécessaire à cette journée d'audience parfois extrêmement éprouvante, celui qui le lit voit en la justice quelque chose de noble. Il reste de la noblesse parce qu'il reste du sens. Mais si aujourd'hui, le consommateur, parce que c'est un consommateur de tweets, va finalement suivre les procès à la virgule près, il ne va pas du tout les réfléchir, les penser et garder une distance qui est nécessaire pour les comprendre. Et à partir de là, il consomme non plus du judiciaire dans la noblesse du terme, mais finalement il consomme du fait divers. Et ça c'est terrible.
Il n'y a plus le tempo qu'il y avait auparavant et qui était propice à la réflexion. Et à la sérénité, à l'écriture de papier équilibré, Ondine Milot, ça se raréfie.
Écoutez, effectivement, ça se raréfie. Pour rebondir et vous expliquer peut-être un peu mieux, quand je vous disais que moi, je ne voulais pas faire de live tweet, c'était pas juste une vieille réac qui veut pas évoluer, etc. C'est que quand je commençais à essayer d'envoyer, alors je faisais pas de live tweet, mais un SMS des choses pour raconter à mes chefs ce qui se passait, j'avais l'impression, si je le faisais trop, de perdre, en fait, le sens. Moi-même, en fait. Je ne comprenais plus.
Vous ne suiviez plus le procès.
Mais quand je vous dis ne plus suivre, c'est pas seulement, j'ai pas entendu ce qu'a dit un tel ou un tel. C'est qu'en fait, il y a des rapports de force quand même extrêmement complexes, compliqués. C'est en général des gens très intelligents et très malins. Les avocats, quand même, sont des gens intelligents et malins, pour la plupart, vraiment. Les juges, souvent aussi, et ils jouent une partition. Et les accusés, parfois, sont des gens incroyablement manipulateurs. Et donc, vous avez... Et parfois pas, mais je veux dire, il y a quand même une bonne dose de choses, de rapports de force, de rapports complexes, de qui joue, pourquoi, comment, etc. Et c'est ça qui est absolument passionnant à essayer de saisir et à essayer de retranscrire dans la manière la plus subtile qui soit. Et subtile, vous ne pouvez pas l'être en tweet. Subtile, il faut de la longueur, il faut du signe.
Est-ce qu'on construit sa plaidoirie d'une manière différente depuis qu'il y a cette justice en direct, Marie Dosé?
Non, je ne crois pas. Mais je pense par contre qu'il faut, pour pouvoir assurer une défense sereine, il faut expliquer d'abord ce qu'il se passe dans la salle d'audience à l'extérieur et ensuite ce qu'il doit se passer à l'intérieur et ce qui fait que nous allons réussir à résister. Ce travail pédagogique-là, auparavant, nous n'avions pas à le faire. Regardez, vous parliez du procès tout à l'heure de M. Jawad, je crois.
Jawad Ben Daoud, oui.
Voilà, je ne le commenterai pas, mais ce que je peux commenter, ce sont les commentaires de ce procès. Force est de constater qu'on retient que les petites phrases. Et que finalement, c'est ce qui amuse tout le monde. Et pourquoi ? Parce que c'est un procès qui est tweeté tout le temps. Et que c'est cette petite phrase-là, la plus drôle, ou en tout cas ce qu'on trouve drôle, qu'on va retenir, et pas l'article de fond qui nous explique exactement la qualification terroriste ou pas, la place des victimes, etc. Donc on perd du fond, et nous, avocats de la défense, nous ne devons rien changer à notre plaidoirie, mais nous devons expliquer aux jurés que eux-mêmes ne doivent pas être touchés ou anéantis aussi par ce qui se passe à l'extérieur.
Alors, ça nous amène à notre question du jour. Vous avez parlé des parties civiles, des victimes qui ont eu du mal dans ce procès à se faire entendre, à part le jour où elles ont été invitées à s'exprimer et où Jawad Ben Daoud n'a pratiquement rien dit. Est-ce que la place des victimes du Bataclan sur cette affaire particulière de Jawad Ben Daoud, est-ce que c'était tout à fait en rapport avec la question qui était posée au tribunal?
Alors, c'est compliqué de me poser la question à moi, parce que...
Je peux la poser à Marie Dosset.
Non, mais c'est-à-dire que je préfère parler d'affaires où j'étais présente et que j'ai suivi, pour le coup.
D'accord, je comprends.
Honnêtement, après, moi, je peux vous dire une chose générale, parce que c'est quelque chose qu'on n'entend pas assez souvent, c'est qu'un procès d'assises ou un procès pénal, correctionnel également, c'est vraiment le procès d'un accusé. C'est-à-dire que les victimes apportent un récit, apportent des faits, apportent des éléments qui nourriront l'accusation. Mais la personne qu'on doit entendre le plus, c'est quand même, il faut que tout le monde comprenne que c'est forcément l'accusé. Et il faut aussi que on arrête ce discours sur ça va faire du bien aux victimes, le procès c'est une thérapie, parce que c'est un discours extrêmement dangereux pour les victimes elles-mêmes. C'est-à-dire les gens qui leur disent ça leur font du mal, parce qu'ils leur disent votre procès c'est un moment pour vous, c'est une thérapie. Et puis les gens arrivent
un moment cathartique.
Et puis ces personnes arrivent à un procès qui est régi par la loi, et la loi ce qu'elle prévoit c'est pas du tout ça. La loi ce qu'elle prévoit c'est qu'il faut vraiment faire le tour de l'accusé, de sa personnalité, de ses motivations, de ses actes, pour le juger lui, parce que c'est lui qu'on juge, ou elle. Et du coup parfois les victimes peuvent aussi vivre des choses très violentes par un accusé qui nie, qui va dire à une victime de violence menteuse, c'est faux, etc. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit aux victimes sur ce que peut être le procès pour elles, quoi.
Marie Dosset, la place des victimes dans ce genre de procès, comment est-ce que elle a évolué ? Est-ce qu'elle est plus importante qu'avant ? C'est la question finalement.
Les victimes, enfin les parties civiles, puisqu'elles ne sont victimes que lorsque l'accusé est déclaré coupable. Les parties civiles ont été très longtemps les parents pauvres de la procédure pénale. Elles étaient inexistantes. Et puis, comme d'habitude en France, on passe de tout à rien. Et on est aujourd'hui face à, en tout cas moi, je considère presque souvent une confiscation par les victimes du procès. Et un passage en force qui fait que parfois le procès perd son sens. Mais là où je rejoins Dimitri Milliot, c'est qu'il va falloir faire œuvre des pédagogies aussi envers les victimes et les parties civiles. Moi, j'en veux à certains de mes confrères, très franchement, dans les audiences, de ne pas avoir expliqué à la partie civile qu'elle n'ira pas mieux, assurément, si celui-ci est condamné, ou qu'elle n'ira pas mieux après le procès parce que ça va participer à la construction de son deuil. C'est pas vrai, ou en tout cas pas toujours, ou en tout cas parfois dans certains contentieux, et notamment celui dont parlait Andine Milliot, rarement. Ce que je veux juste dire, c'est que il y a une difficulté sur la place des victimes qui est donnée aujourd'hui dans le procès, parce que les avocats mettent trop en avant la souffrance de leurs clients et devraient raison garder, leur expliquer que ce n'est pas dans l'enceinte judiciaire qu'elles vont se réparer psychologiquement.
Mais est-ce que c'est pas quand même le rôle des avocats de se confronter pour avoir le meilleur jugement pour leurs clients ?
Non mais le rôle de l'avocat, c'est de dire qu'il ne se transforme pas en procureur de la République. C'est-à-dire que le rôle de la victime, c'est de dire « moi, je ne vais pas réclamer de peine. Je ne suis pas là pour que ce monsieur passe de 10 ans à 15 ans. »
On est là pour déposer, pour témoigner, c'est...
Non, on est là pour représenter la voix de celui qu'on défend. Mmh. Et celui qu'on défend, c'est la victime, on ne se transforme pas en accusateur. On défend la voix de celui qui a souffert. À partir de là, La difficulté que j'ai, moi, depuis 3 ou 4 années, c'est que j'ai parfois plus peur de mes confrères de la partie civile que du procureur de la République. Donc il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui fonctionne pas.
Il y a une confusion des rôles. Parfois le procureur de la République va moins loin que ce que disent les avocats des.
Bien sûr, parce que le procureur de la République enlève de l'émotion et ne l'instrumentalise pas. Et en tout cas, il fait œuvre de justice en essayant d'équilibrer les choses et pas en exacerbant une souffrance pour essayer d'établir ou de prouver quoi que ce soit. Le degré de souffrance de la victime, et je suis pas en train de la nier, je suis en train de dire simplement que elle n'est pas à prendre en considération comme le souhaiteraient certains confrères de partie civile dans une peine. C'est pas ça qu'on juge. On juge un homme qui a commis quelque chose.
Mais par rapport à son parcours, par rapport à ses actes, c'est sûr que c'est ça qui doit absolument déterminer la peine. Ouais. Et elle a raison. Après, moi, par rapport à votre question,
oui, en tant que journaliste, est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a demandé dans des papiers d'en rajouter un peu sur...
Non, j'ai eu vraiment de la chance. Ouais. Et à l'IB, j'avais une paire royale et on m'a jamais demandé d'en rajouter, surtout pas. Mais simplement, moi, j'ai vu quand même un certain nombre de procès assez équilibré et qui devait se passer comme des procès. Marie Dosé dit l'inverse, et évidemment elle a raison, et on parle pas forcément des mêmes, ça nous est arrivé de nous croiser, mais voilà, elle en a fait plein sans moi et moi plein sans elle. Mais pour moi, le moment le pire de déséquilibre, de où la parole de la victime prend énormément de place par rapport à celle de la défense, c'est pendant l'instruction. C'est-à-dire pendant toute la phase d'enquête, etc. Parce que pour un avocat de la défense, c'est très compliqué de parler. Enfin, son client est régulièrement auditionné par le juge d'instruction et tenu au respect du secret de l'instruction. Et vraiment, il a tout intérêt à très peu parler, à compter ses mots. Et les victimes n'ont pas cet intérêt-là. Et si elle peut, et donc là, on peut quand même voir des forts déséquilibres dans cette phase-là.
Alors, à quel type de difficultés les avocats de la défense qui défendent des criminels sont confrontés, Marie Dosé? Il y a des menaces, des lettres anonymes, des comment est-ce que ça vous est arrivé?
Non, mais il est toujours beaucoup plus serein d'assister à un accusé devant une cour d'assises quand il n'y a pas de journaliste. Mais c'est pas la faute des journalistes, c'est la faute de la société qui s'excite un petit peu sur le judiciaire sans comprendre le sens de ce qui est en train de se passer. Je crois qu'on est matière à faits divers. Alors il y avait quelque chose d'amusant et presque de touchant quand dans les palais de justice on voyait les petites grand-mères préférer aller dans les salles d'audience que regarder la télévision l'après-midi. Ça, c'est pas très grave. Mais avec les réseaux sociaux et la prolifération des réseaux sociaux, plus probablement un état un peu de sidération de toute une population après cette souffrance des attentats, il y a quand même, on le sent très bien, un message de haine, un message de le bon, le mal, le méchant, le bien, et vous allez voir maintenant ce que vous allez voir. Donc il est vrai, très sincèrement, que je préfère moi les cours d'assises vides de journalistes, parce que les magistrats sont moins sous tension. Nous, on peut se concentrer, comme je le disais tout à l'heure, sur le devant et pas être un peu gêné par ce qui se passe derrière. Et que je retrouve là une noblesse du judiciaire qui parfois se perd, mais parce qu'on n'y peut rien.
Alors, vous avez ce genre de réaction de haine, vous aviez sous vos papiers ou dans votre travail, Andine Milo, ça vous est arrivé de...
Ah oui, ça a pu m'arriver, oui, parce que j'essayais quand même d'avoir une démarche plutôt de comprendre pourquoi les auteurs de crimes ou d'actes répréhensibles judiciairement en étaient arrivés là. Et parfois, le fait que l'article essaye de comprendre et d'expliquer, c'était transformé en comme si j'excusais, ce qui n'était pas mon propos.
Vous preniez même partie, c'est ça?
Mais je prenais absolument pas partie.
Non, c'est ce qu'on vous disait, oui.
Bah, essayer de comprendre ce qui a mené là, ce qui pour moi en fait est une vocation de prévention, justement, parce que si on comprend pas pourquoi les gens commettent des crimes, comment veut-on les prévenir, bah parfois ça passait pas. Mais je voudrais quand même dire, par rapport à ce qu'a dit Marie Dosé, que c'est important que la presse soit présente et que le procès soit public, si je peux me permettre.
Bien sûr, je pense qu'elle est d'accord avec ça. Merci à vous, Marie Dosé et Ondine Milo, d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Ludivine Amado. Vous pouvez nous retrouver et nous podcaster sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, et sur nos applications mobiles. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.